nous vous présentons dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, la troisième époque de Violence et Crépuscule, L'élu. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre. Musique originale de L'élu, Lionel Morzetti. Il se dit qu'il doit lui rester fidèle. Mande, mais qu'est-ce que tu as? Pourquoi est-ce que tu ne veux plus? Il lui dit, c'est parce que je suis fatigué. Elle lui dit, c'est pas normal d'être toujours fatigué. Tu iras voir le médecin. Il se dit, oui, c'est ça. Et je lui dirai que ça me dégoûte de faire l'amour avec une vieille qui pourrait être ma mère. Mais très vite, il a du remords de ce qu'il vient de penser. Jeanne se pose des questions. Un matin, qu'elle est seule dans sa chambre, elle se regarde dans la glace. Que son visage a changé, vieilli. Elle soupire. Elle se met nue et voit que son corps peut être encore désirable. Bien sûr, les seins pendent un peu, les fesses sont alourdies. Elle soupire et se dit, pour un homme de 50, 60 ans, c'est bon. Mais un jeune homme de 16 ans, elle soupire et pleure. Plus jamais elle me désirera, plus jamais. Le soir, il va la retrouver au salon. Il la retrouve au salon. Elle pleure. Il lui dit, ça ne va pas? Elle lui dit, je suis si vieille que ça. Je veux que tu me fasses l'amour encore une fois. Elle se pince son cou. Il voit ce visage bouffi, vieilli, qui lui tend les lèvres et lui goûter, voit en fondu le visage de Valérie. Le visage s'approche et l'embrasse, plein d'amour, et devient celui de Jeanne. D'un geste brusque, il la repousse. Oh ! Et elle tombe. Oh ! Elle est tombée à terre. En tombant, elle a cogné le bord d'une table qui était près d'elle, qui a cogné la tempe. Abruti, Frédéric se penche. Jeanne, elle ne bouge pas, couchée sur le ventre, du côté gauche, les lèvres ouvertes, les yeux fixes. Jeanne, il la secoue. Jeanne, je l'ai tuée. Je l'ai tuée. Il se souvient de tout ce qu'elle a fait pour lui. Elle m'a fait revivre. Je suis son mari, et moi, une fois vivant, je la tue. Non ! Et se sauve en courant. Et sort de la maison. Or, il prend son scooter. Et file, file. Il ne veut pas penser. Il veut avoir la tête vide. Mais malgré lui, il se souvient. Elle m'a redonné la vie. Et moi, j'ai tué. J'ai tué. Par hasard, il arrive devant l'immeuble où Valérie habite. Il arrête son scooter. C'est un vieil immeuble cossu de la rue Sully. Il va sonner à l'interphone. Une voix lui dit « Oui ?» J'aimerais parler à Valérie, s'il vous plaît. Mais qui êtes-vous ? Il a une seconde. Il ne sait plus ce qu'il y a à dire. Je suis Frédéric. Bien, je vais voir. Il attend. Il a envie, c'est de s'en aller, mais... Allô ? Valérie ? Oui. Je voudrais te voir. C'est très urgent. C'est sérieux. Je t'en supplie. Elle lui dit, bien, descends. Il attend. Il se demande pourquoi. Il l'a demandé. Que va-t-il lui dire ? La porte de l'entrée vient de s'ouvrir. Elle est là. Elle lui dit : « Qu'est-ce que tu as à me dire ? » Il lui dit : « Je t'aime. Elle ne dit rien. J'ai, sans faire exprès, tué Jean. Elle devient toute pâle. Il lui dit, elle a voulu m'embrasser. Je t'ai vu. J'ai cru que c'était toi. Et lorsque je l'ai vu, j'ai été dégoûté. Je l'ai poussé et elle est morte. Tu en es sûr? Oui. Il a les larmes aux yeux et lui dit, aide-moi, je t'en supplie. Je ne sais plus quoi faire. Je n'ai que toi. Je ne sais plus où j'en suis. Elle le regarde. Elle a l'air si malheureux et désespérée. Elle lui demande, elle est vraiment morte? Il lui dit, oui, réellement. Je dois partir me cacher. Je ne sais pas. Partons ensemble. Elle a pitié de lui. Elle ne peut pas le laisser comme ça. Elle lui dit, attends, je reviens. Et elle rentre dans son immeuble. Lui attend, mais il se demande s'il ne devrait pas s'en aller. Elle revient, habillée d'un blouson noir et d'un pantalon beige. Elle lui dit, on partir. Il monte sur le scooter et lui demande, nous allons où? Elle lui dit, je ne sais pas, où tu voudras, n'importe où, le plus vite possible. Et il roule. Ils sortent de la ville et roulent droit devant eux, sans savoir où ils vont. La nuit tombe, ils roulent pendant des heures et des heures, c'est la nuit, ils vont comme ça, peut-être qu'ils tournent en rond, elle s'est endormie sur son épaule. Au bout d'un moment, il sent la fatigue. Il va arrêter son scooter au bord de la route. Le couche dans un fossé, prend Valérie, la dépose sur l'herbe et lui s'allonge près d'elle. Il la prend dans ses bras. Il la prend dans ses bras. Il la sent toute douce, sans défense. Ils se sont plaqués l'un contre l'autre. La nuit est douce. Thank you. mais la fraîcheur du matin les réveille. Ils sont surpris de se retrouver comme ça et se souviennent. Il est tout ému d'avoir le visage de Valérie tout contre le sien. Oh Valérie, oui, je t'aime. Et il l'embrasse. Elle lui dit, devrions peut-être chercher à manger. Il lui dit, oui, cherchons à manger. Ils sont engourdis, ils ont froid. Ils prennent le scooter et continuent leur route. Le jour commence à se lever. Frédéric ne sait pas pourquoi, mais se sent très heureux. Il a contre lui Valérie, la route, le monde lui appartient. Il n'a jamais été aussi bien, aussi jeune, aussi libre. Il voit une auberge au bord de la route. Il est à peu près 9h du matin. Il décide d'entrer dans l'auberge. Meuble campagnard avec des rideaux rouges. S'assoit vers une table, il y a peu de monde. Une femme, la serveuse, une blonde, en robe verte, leur demande « Vous désirez ?» Frédéric lui dit « Deux petits déjeuners, s'il vous plaît. » Elle va le leur chercher. Valérie lui dit « C'est moi qui paye. Le centre a dû recevoir l'appel. » Et on doit te rechercher. Si tu sors la carte, ils vont savoir où tu es. Il lui dit, ah oui, c'est terrible. Mais lorsque je l'ai vu se pencher sur moi pour m'embrasser, j'ai vu apparaître en double ton visage. Alors, je l'ai embrassé. Quelle horreur! C'est terrible ce que j'ai fait. La serveuse leur apporte leur petit déjeuner. Valérie lui donne sa carte, qu'elle met sur son écran portable et la lui rend, puis s'éloigne. Frédéric lui dit, elle m'a donné la vie et moi, je la reprends. Je suis un monstre. Elle lui dit, non, c'était un accident. Tu ne dois plus y penser. Et puis, c'est elle qui est coupable. Elle t'a donné la vie. Pas pour toi, mais pour elle. Tu comprends? Il lui dit, oui, je ne sais plus. Elle lui dit, ne fais pas revivre les gens comme ça, étant mort, vivant. C'est elle la coupable. Dieu s'est vengé. Il lui dit, et moi? Elle lui dit, tu dois vivre et oublier. Il lui demande, qu'allons-nous devenir? Elle lui dit, nous sommes ensemble, c'est essentiel. après avoir pris leur petit déjeuner, ils ont quitté le restaurant. Avant de partir, il lui dit « Je t'aime, Valérie. » Elle lui dit « Moi aussi, Frédéric. » Il lui dit « C'est terrible ce qui nous arrive. » Il la prend dans ses bras. Ils sont partis. Ils ont fait des kilomètres et des kilomètres. Ils ne savent plus où ils vont. Ils sont heureux d'être plaqués l'un contre l'autre et de filer, filer, filer. Ils sont beaux, le ciel est bleu. Sans savoir comment, en fin de journée, ils sont arrivés à Paris. Le soir tombe, les rues sont désertes et sales comme toujours. Frédéric roule dans les rues au hasard. Il ne sait pas pourquoi, mais cette ville lui donne le cafard. Valérie est bien plaquée contre lui. Tout à coup, sort une ruée de gens, une foule immense qui envahit la rue. On crie, on tire, on casse. C'est une émeute. Les deux jeunes gens sont tout d'un coup envahis par les émeutiers qui crient, hurlent. Ils sont apeurés, ont quitté leur scooter et essayent de sortir de ce genre de bataille qui est devenu la rue. Ils essaient de sortir de ce champ de bataille qui est devenu la rue. Ils sont bousculés, tirés, tiraillés. On leur crie au visage. On leur crache au visage. Frédéric tient à la main Valérie. Ils ont peur. Le feu, les coups de feu, les cris, les gens qui les menacent. On tire sur leurs vêtements. On les déchire. Valérie hurle, n'en peut plus. Elle leur crache au visage. Ils sont très jeunes. Ils sont bousculés, tiraillés. tournant d'une rue. Brusquement, Frédéric réussit à se défaire des manifestants. Tire Valérie à elle. Fait un geste. Ah ! Valérie a crié. Il sent qu'elle lâche sa main. Se tourne vers elle. Elle est toute pâle. La matière a une épaule et réussit à la faire entrer dans une allée ouverte, une petite allée d'un immeuble lugubre. Il la plaque contre le mur. Valérie, qu'as-tu ? Valérie, qu'as-tu ? Elle lui dit, j'ai reçu un coup dans le dos. Met la main dans le dos, la retire et voit du sang. Valérie fait la grimace et s'affaisse. Valérie ! Elle ne répond plus. Elle s'est allongée à terre. Il se penche. Valérie ! Elle ne bouge plus. Il la touche. Elle est morte. Mon Dieu, Valérie, dis-moi que tu n'es pas morte. Mon Dieu, Valérie, je t'aime. Il l'embrasse, se couche sur elle. Plus rien ne compte pour lui, plus rien n'existe. Valérie, Valérie. Puis, la porte est ouverte. Trois hommes en noir, armés jusqu'aux dents, les voient. Ils prennent par le dos Frédéric et le jettent dehors. Et referment la porte. Frédéric frappe à la porte, crie « Laissez-moi ! Laissez-moi entrer ! Laissez-moi entrer ! Valérie ! Valérie ! Valérie ! Valérie ! Valérie ! » On le bouscule. Il y a de la fumée de partout. On ne sait plus ni où il est, ni où est Valérie. On le fait tomber à terre. Il voit un revolver, il le prend, il le met dans sa poche, il se relève. Il est dans la bousculade, pris par les homéquiers, il ne sait plus. Il se fiche de tout. Puis, tout d'un coup, il se retrouve seul dans une rue vide. Il voit au bout d'une rue un portail entrouvert. Il fait nuit sombre. Les émeutiers sont plus loin. Il est seul. Le bruit des émeutiers s'éloigne. Il entre. Il fait nuit. Et voit que c'est un cimetière. La tête vide, il marche, s'enfonce dans le cimetière. À travers les tracés des tombes. J'ai porté malheur à tous ceux qui m'ont aimé. Pourquoi est-ce que je devrais être en vie? Au bout de la travée, il voit une tombe. La lune éclaire la tombe, un nuage la voilait. La pierre tombale est toute blanche. Il lit. Frédéric Rivoire. Il voit sortir de l'ombre une forme d'homme. Reculé. Il sent dans sa poche quelque chose de dur. Il le prend, le met sur sa tempe. Il tombe à terre à la renverse. Il est mort. Le lendemain matin, les gardes du cimetière ont trouvé le corps, ont prévenu la police, qu'il a identifié grâce à la carte qu'il avait sur lui. Il était recherché à cause de la mort de Jeanne. L'affaire est close. Le cadavre a été enterré où il a été déterré. Une nuit. Des hommes en noir sont venus. Ils ont déterré le cadavre. Pour prendre le corps. et l'ont amené à la clinique Jeune-Toux Pontoise. Là, ils ont vu que le corps était bien le corps d'un jeune adolescent de 16 ans. Ils ont vu qu'il n'avait pas précairement vieilli. Ils ont conservé le cerveau qui pourrait servir pour un autre corps. L'ADN, le sang, la peau, les organes ont été congelés, eux aussi. Tout est bon pour le recyclage. Le reste a été mis en bocaux pour pâte à chien. Dans la ville, dans son bureau, dit à ses collaborateurs : Vous allez me prendre la femme, ou plutôt son corps, et nous allons faire une expérience, mélanger les deux corps pour faire une seule personne. Je pense que ce sera peut-être intéressant. C'est de mettre le cerveau de Jeanne dans le corps de Frédéric. Comme cela, elle ne pourra pas le perdre. Et nous, nous verrons ce que ça va faire. Allez à Lyon, me prendre son corps et faites l'opération. Tous les organes qui n'auront pas trop vieilli, nous les gardons. Les autres qui seront trop vieillis seront remplacés par celui du jeune homme. On va prendre le corps de Jeanne, on la déterre. Puis, arrivé à la clinique, on la revitalise, enlève tout ce qui est mauvais ou trop vieux pour la rajeunir. On lui change certains organes par celui de Frédéric et le cerveau. On lui revitifie. La peau est lavée, assouplie, vitaminée. Puis, une fois que toutes ces opérations sont faites, on va la remettre en vie en action. On lui balance des rayons laser, des piqûres de sang, de vitamines. On lui met de l'air. Puis, petit à petit, elle reprend vie, ou il reprend vie, ou ils reprennent vie. Mais comment vont-ils, ou va-t-il supporter d'être d'avoir ce corps? Est-ce une femme? Un homme? Quel âge a-t-il? Son passé? Son peu. Au début, en prenant conscience, il sera comme un légume, le blanc, le vide. Puis petit à petit, des images, des sons lui reviendront. Puis il va se demander où il est. Chambre blanche, allongée, il ne peut pas bouger. Se dit « Ah oui, j'ai dû me rater. » Tout lui revient. Il sent qu'il est plein de bandages. Des gens en blouse blanche viennent vers lui, se penchent. On lui fait des piqûres, on l'examine. Il se dit « Je me suis raté, je ne suis pas mort. » Il voit le visage de Valérie. Et Valérie ! Les infirmières accourent à lui. On lui dit, calmez-vous. Il lui dit, elle est morte. Je veux mourir moi aussi. On lui fait une piqûre. Le noir. Puis, il se réveille un peu, de temps en temps. Il aimerait sortir, être seul, penser à Valérie. Les jours passent, il prend des forces. Un jour, un médecin, un grand blond, lui dit « Nous allons vous enlever vos bandages. » On lui défait ses bandages, il ne bouge pas. Il attend. Il sent l'air toucher sa peau, ou plutôt effleurer sa peau. Ça lui paraît étrange. Une fois que tout est enlevé, il est resté pour cette opération allongé, nu. Maintenant, il se sent bizarre. Peut-être que sa peau n'a plus l'habitude d'être nue. Et pourtant, ils ont mis tous ces bandages de la tête aux pieds. Le médecin lui dit, voilà, tout est parfait. La peau est impeccable. Plus de cicatrices. Apportez un miroir. Les infirmières apportent un miroir. Une grande glace. Frédéric voit Jeanne. Mais il se touche et voit que c'est bien lui. Non! 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 Je suis devenue celle que j'ai tuée. Non! Je serai jamais enfermé dans le corps de ma victime. Hein? Il s'évanouit. Le médecin qui l'a entendu se dit, voilà une bonne peine. Chaque criminel sera enfermé dans le corps de sa victime. Il dit, réveillez-le-moi. On lui donne des tapes. Frédéric se réveille. Le médecin se penche sur lui et lui dit, il va falloir vous habituer à vivre avec Madame Jeanne Rivoire. Frédéric hurle, non, je ne veux pas. J'étais le mari, le fils, et maintenant je suis ma femme. Vous êtes des monstres. Je veux Valérie. Le médecin lui dit, on ne peut plus rien pour Valérie. Elle a été déchiquetée par des monstres. Nous vous avons présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Junier Jean-Pierre, la troisième époque de Violence et Crépuscule, l'élu, production, mise en scène, Junier Jean-Pierre, enregistrement CVRP. Musique originale de l'élu, Lionel Morzetti.